Donc moi, je suis Clémence Bouchard, je travaille à Prison Insider, je m'occupe du pôle comparé, si jamais on vous invite à aller voir notre site internet et donc à voir un petit peu ce qu'on fait également. Et je ne suis pas toute seule pour animer cet atelier.
Je suis Mathieu Quinquis, je suis avocat et président de l'OIP. Et donc, effectivement, on va aborder un peu la question de l'évasion à travers le monde, peut-être moins pour en faire une espèce de catalogue des régimes et des législations pénales, mais plutôt essayer de voir comment à l'étranger, et parfois même pas très loin de chez nous, des pays ont pu appréhendent aujourd'hui et font sans doute preuve de beaucoup plus d'intelligence que la France. Et donc l'idée, c'est de effectivement se projeter un peu ailleurs pour ensuite se recentrer sur notre situation et imaginer d'autres formes d'appréhension de l'évasion. Alors en termes d'organisation, on va commencer peut-être quand même par rappeler comment ça se passe en France, quel est le régime juridique en France. Alors en France, l'évasion est effectivement, ça a été dit ce matin, incriminée dans le droit pénal, donc c'est une infraction. On appréhende l'évasion de différentes manières. Il y a l'évasion par nature, telle qu'on se la figure tous, c'est-à-dire ce que vous avez raconté tout à l'heure, Eric, passer par-dessus un mur. Donc ça, c'est l'évasion par nature. C'est le fait de quitter un établissement pénitentiaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les évasions par assimilation. Et donc là, on ne quitte pas un établissement pénitentiaire, mais on quitte finalement l'emprise qu'a la justice, enfin, on essaie de se libérer de l'emprise qu'a la justice sur nous. Et ça s'applique aux personnes qui sont hospitalisées, détenues, enfin, placées sous main de justice et hospitalisées, ce qui arrive dans le cadre d'extraction, ou dans le cadre d'unités, qu'elles soient de soins somatiques ou de soins psychiatriques. Vous pouvez aussi vous évader lorsque vous êtes placé à l'extérieur. Donc là, c'est une forme d'aménagement de peine où vous restez sous main de justice et vous êtes installé dans un établissement. Par exemple, Gabi Mouesca en parle beaucoup. C'est ce qui se passe dans la ferme qu'il anime au Pays Basque, mais aussi dans d'autres types d'institutions qui ne sont pas forcément des fermes. Vous pouvez aussi vous évader lorsque vous êtes sous bracelet électronique. Donc aujourd'hui, c'est la détention à domicile sous surveillance électronique. Le fait de couper, de tenter de neutraliser le dispositif de surveillance électronique est considéré comme une évasion. De la même manière que le fait de ne pas réintégrer son domicile, le fait de ne pas revenir finalement bipé, et peut aussi être considéré comme une évasion. De la même manière, pour les personnes qui sont placées en semi-liberté, donc qui, dans la journée, quittent l'établissement pénitentiaire pour suivre une formation, aller travailler, faire des recherches pour la réinsertion, et qui ne réintègrent pas l'établissement, c'est aussi considéré comme une évasion. Chacun d'entre nous doit se souvenir à tout instant que la mission primordiale de son administration est d'assurer la garde des détenus qui lui sont confiés par décision judiciaire. L'évasion est la plus grande faute du service pénitentiaire. Elle est facteur de démoralisation, pardon. Elle est cause de scandale. Si elle se produit, c'est que l'administration a manqué à son devoir. Tous les agents doivent être dans une véritable angoisse de l'évasion, appliquer le règlement, tout le règlement, et bien plus encore leur intelligence, leur générosité, leur zèle au service de la sécurité. C'est là, je le répète, le premier et le plus indispensable devoir des agents de l'administration pénitentiaire. On est en 1964, ça peut paraître un peu daté, mais en réalité, sur la création et l'évolution de l'administration pénitentiaire, cette philosophie viendra irriguer l'ensemble des réformes en matière pénitentiaire. Et là encore, je rebondis sur ce que Eric vous disiez tout à l'heure, c'est que au terme de la loi, les directeurs d'établissements sont disciplinairement responsables des évasions. Et donc, ils doivent rendre des comptes et ça viendra nécessairement entacher leur carrière. Et ça, c'est, il y a quelques semaines encore, le code de procédure pénale qui le prévoyait. Désormais, depuis le 1er mai, on a un code pénitentiaire. Et donc, tout est intégré dedans. Et il y a bien un article qui précise que les chefs d'établissement sont disciplinairement responsables des évasions imputables à leur négligence ou à l'inobservation des règlements. Leur négligence, c'est un terme très flou qui permet d'envisager un certain nombre de comportements et pas forcément que des comportements positifs. C'est effectivement des abstentions aussi, le fait peut-être de ne pas avoir placé suffisamment d'agents dans tel service, etc. Dans tous les cas, cette négligence pourra être caractérisée. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut paraître évident, mais la tentative d'évasion est aussi réprimée. Et en droit français, la tentative n'est pas réprimée si la loi ne le prévoit pas. Donc s'il n'y a pas un texte qui vient précisément dire que la tentative d'évasion est sanctionnée, elle ne l'est pas. Et là, ils ont aussi fait le choix de réprimer de la même manière, puisque les peines encourues sont identiques, on vient réprimer une évasion qui n'a pas réussi, et le propre de la tentative, c'est donc que ça échoue, mais que ça échoue pour des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs. Donc là, on imagine que si l'évasion n'a pas réussi, c'est que la personne a été attrapée avant de sortir. Il n'y a pas tentative d'évasion si la personne est interpellée 2 heures après. Elle est effectivement sortie. Donc c'est dans le processus de fuite que l'évasion échoue, et malgré ça, on considère qu'on vient réprimer. Donc non seulement il n'y a plus de droit à l'évasion, mais il n'y a même pas un droit à la tentative, ce qui quand même est assez important. Je poursuis parce que effectivement, ça l'a été dit sur toutes les récits des grandes évasions, une évasion se réalise rarement seule, et donc on a besoin de soutien. Et là, les aidants sont aussi réprimés. Et pourquoi je parle d'aidants et pas de complices, c'est qu'en réalité, c'est une infraction autonome que d'aider à l'évasion. Ça se justifie par plusieurs raisons. D'abord, le fait que l'évasion par ruse n'était à l'origine pas réprimée, mais qu'en revanche, l'aide à l'évasion l'était. Donc il y avait quand même une différence de traitement. Mais là, donc, le fait de procurer aux détenus tout moyen de soustraction est puni de 3 ans de prison. Et après, on suit la même gradation selon les circonstances aggravantes. Et les personnels de surveillance sont également plus lourdement sanctionnés s'ils ont contribué à faciliter ou préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu.
Donc, sans surprise, on peut dire qu'il n'y a pas de droit à l'évasion en France. Je pense que là, c'est clair. C'est une philosophie qui a été adoptée, et voilà. Mais ça n'a pas été le cas dans tous les pays. Évidemment, il y a une bête qui arrive au moment où je me mets à parler. C'est pas du tout le cas dans tous les pays. Il y a d'autres pays qui ont choisi une autre philosophie, notamment, et on reviendra sur les pays, mais qui posent comme constat que la liberté est un droit fondamental, qu'est une aspiration fondamentale, et que donc il est impossible de sanctionner une personne pour le simple fait qu'elle ait essayé justement de retrouver cette liberté et que donc elle se soit échappée pour retrouver cette liberté et qu'elle ait tout fait pour le faire finalement. Et ça part aussi d'un constat souvent de dire ça permet aussi de rendre la privation de liberté plus supportable pour les personnes qui la vivent. Ça permet d'avoir un espoir finalement qu'un jour peut-être on pourra s'évader si on trouve la bonne ruse, si on trouve le bon moyen de le faire. En tout cas, c'est possible. Parce qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de pays qui ne criminalisent pas le fait justement de s'évader par la ruse, donc l'évasion simple, donc ce qu'on a vu, ce qui est sanctionné en France depuis une quinzaine d'années maintenant. Par exemple, et ça notamment Gilles Chantraine hier matin, si vous étiez là à la conférence d'ouverture, avait mentionné plusieurs pays, et je vais redire à peu près les mêmes, puis on va revenir un peu plus en détail sur certains d'entre eux. Évidemment, on ne va pas faire un catalogue de quel pays criminalise, quel pays ne criminalise pas, ce ne serait pas très intéressant. Mais juste pour dire que, par exemple, l'évasion, comme en France, est aussi punie, l'évasion simple, encore une fois, en Albanie, au Canada, en Moldavie, en Finlande, à Haïti. En général, même dans pas mal de pays africains aussi, on en parlait rapidement hier dans la conférence sur les prisons en Afrique. Mais c'est pas le cas, par exemple, en Allemagne, c'est pas le cas non plus en Suisse, c'est pas le cas en Irlande, en Belgique, en Autriche aussi. Parfois pour des raisons différentes, mais en tout cas au Mexique aussi, avec chaque fois cette philosophie de la liberté est un droit fondamental. Pour nous, c'est reconnu comme un droit fondamental, donc on ne peut pas interdire totalement tout espoir d'évasion un jour. Cela étant dit, c'est pas parce que justement l'évasion en tant que telle et l'évasion simple n'est pas sanctionnée que tout le reste ne l'est pas non plus. Donc, et c'est aussi ce qui était le cas en France avant. Mais par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne, mais c'est un peu la même chose aussi en Suisse, par exemple, ou en Belgique. Mais si on prend le cas de l'Allemagne, Alors, si on s'évade comme ça, ça va, mais par contre, il est interdit d'endommager le moindre matériel. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de casser les barreaux, par exemple, de sa cellule, parce que ça, c'est endommager du matériel. Pareil, si on casse une fenêtre, ça serait endommager du matériel. Creuser sous la prison, par exemple, ce serait endommager du matériel. Il n'est pas non plus possible de se faire aider par une tierce personne. Il n'est pas possible, évidemment, de porter atteinte à l'intégrité de quiconque ou de blesser ou d'agresser une personne, peu importe d'ailleurs le statut de cette personne. Donc, en fait, il est possible de s'évader, mais sans l'aide de personne, en ne brisant rien et en sortant juste comme ça. Donc, ça serait vraiment l'exemple, justement, des détenus corses dont Mathieu parlait juste avant. Mais c'est voilà, l'évasion par ruse et garder cet espoir pour la personne de se dire ben voilà, je vais trouver la bonne ruse et je vais pouvoir sortir de cette manière. Après, c'est vrai que c'est assez. C'est pour ça que le droit de cette manière est un peu hypocrite parce que ce n'est pas vraiment un droit, l'évasion quand même en tant que tel. En tout cas, il est très limité. Cela dit, dans la plupart des pays, donc, comme si les personnes arrivent finalement à sortir, n'ont rien cassé, n'ont eu besoin de l'aide de personne. Ce qui est quand même assez impressionnant, comme il faut le dire, et que finalement elles sont retrouvées, puis de nouveau placées en détention. Dans la plupart des pays, leur peine reprend là où elle s'est arrêtée. Donc par exemple, s'il leur restait 10 ans, il leur reste toujours 10 ans, ça reprend au jour où ils se sont échappés. Et il n'y a pas d'autres peines, en tout cas il n'y a pas un ajout d'une peine. Par contre, c'est évident que ça a des conséquences disciplinaires qui sont importantes, parce que ce n'est pas parce que c'est pas sanctionné en tant que tel que ce n'est pas une violation quand même du règlement disciplinaire. Donc le détenu va pouvoir va souvent voir quand même une dégradation de ses conditions de détention, notamment parce qu'il va potentiellement être placé en isolement ou dans un quartier où il va être plus surveillé. Il va avoir aussi les chances pour avoir une réduction de peine ou un aménagement de peine vont être aussi plus minces, peut-être moins d'accès à certaines activités, moins d'accès à certains droits finalement. Donc bon, il y a quand même des conséquences, c'est quand même pas tout beau, tout rose. Donc voilà, c'est un petit peu une balance aussi entre les intérêts, la liberté, les intérêts de la personne détenue et surtout, en fait, les intérêts de l'administration pénitentiaire, qui n'est pas, qui sont quand même, en fait, les plus importants quand on regarde de ce point de vue-là. C'était pas forcément prévu, mais on trouvait ça aussi intéressant d'aller voir d'autres types de régimes juridiques. Et notamment, en ce moment, c'est assez intéressant parce qu'on en parle plus, mais du droit international humanitaire, donc qui est le droit dans les conflits armés, le droit qui est applicable dans les conflits armés, où là, pour le coup, il y a un vrai droit à l'évasion qui est reconnu pour les prisonniers de guerre. Donc si, c'est très simple avec la situation Russie-Ukraine, tout le monde voit de quoi je parle et c'est plus simple. Mais si, par exemple, la Russie capture un prisonnier ukrainien elle détient ce prisonnier de guerre, un détenu, donc ce prisonnier de guerre ukrainien, pourra tout faire pour s'évader. Il ne pourra, s'il réussit et même s'il n'y parvient pas, être susceptible ou en tout cas, il ne pourra avoir qu'une peine disciplinaire si jamais il est repris. Donc, si je m'explique un petit peu mieux, l'évasion dans ce contexte-là ne peut être punie que d'une peine disciplinaire, jamais plus. C'est-à-dire que la personne ne pourra jamais être poursuivie parce qu'elle s'est échappée, parce qu'elle a essayé de rejoindre une autre puissance neutre, donc un autre pays qui ne participe pas au conflit, ou qu'elle a essayé de rejoindre ses propres forces armées et donc d'échapper au contrôle de la puissance qui le retient finalement. Et c'est assez intéressant, je vais vous lire un petit texte donc, des conventions de Genève. C'est assez court et c'est aussi un peu vieux français quand même, mais c'est intéressant. Donc, où il est clairement noté, le prisonnier de guerre peut légitimement chercher à échapper par la ruse à celui qu'il a capturé. D'aucuns vont jusqu'à voir dans toute tentative d'évasion l'accomplissement d'un devoir et il est certain que les auteurs de ces tentatives sont généralement animés de sentiments patriotiques. Parce que là, la situation, c'est que justement, on reconnaît aux prisonniers de guerre une situation quand même qui est particulière et une volonté de s'évader qui est d'autant plus importante qu'il est finalement un ennemi dans ce pays-là. Et de manière un peu plus récente, le Comité international de la Croix-Rouge s'est repenché un petit peu sur l'interprétation de ces différents textes et sur comment appliquer chaque article qui était déjà en vigueur depuis plusieurs décennies. Et le CICR note, et en fait je l'ai trouvé ça très intéressant, donc je l'ai gardé parce qu'en fait ça s'applique aussi très bien aux droits nationaux, note que l'évasion d'un prisonnier de guerre soulève un dilemme finalement entre deux idées qui sont contradictoires dès le départ. Donc la première idée contradictoire, c'est de tenter de s'échapper, peut être vue comme une démonstration de patriotisme et en plus des plus honorables attentions. et que c'est rarement un crime. En tout cas, ça ne doit pas être vu comme un crime dans ce contexte-là. Et à cause de ça, le prisonnier de guerre a un droit, un devoir moral et parfois même une obligation légale de s'évader en vertu des lois applicables dans son État. C'est-à-dire que certains États vont dire au prisonnier de guerre « tu es obligé de tenter de t'évader légalement ». Donc c'est aussi très intéressant parce que c'est plusieurs régimes juridiques qui peuvent rentrer en concurrence par rapport à ça. Voilà. Et l'autre idée contradictoire, c'est que dans le même temps, une tentative d'évasion est évidemment une violation du règlement disciplinaire et que donc la puissance détentrice, donc la puissance qui détient le prisonnier de guerre, a une forte obligation finalement d'empêcher que cela arrive. Donc forcément, ça, les deux idées sont totalement contradictoires et tout est juste une balance et de où savoir on met le curseur, etc. entre ces deux idées contradictoires. Ce qu'il a d'ailleurs, ce que le CICR a notamment surnommé, mais il n'est pas le seul, le paradoxe de l'évasion. Et en fait, ça, ces deux dimensions-là, elles s'appliquent très bien dans le contexte des prisonniers de guerre, mais c'est aussi le cas dans d'autres types de contextes nationaux. On a ce même paradoxe entre vouloir retrouver sa liberté, et vouloir retrouver sa liberté est un acte noble et une liberté fondamentale parfois, et en même temps, l'administration pénitentiaire, c'est aussi son rôle de vous garder, en fait, et donc de faire en sorte que cela n'arrive finalement pas.
Merci.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter une émission réalisée par Radio D'ici.
L'écho.
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 Des conférences.
L'écho des conférences, l'émission qui vous permet d'assister aux conférences des rencontres Concertina comme si vous y étiez.